Retrouve les directs, les podcasts et la newsletter sur www.libradio.org.
Alors voilà, nous allons passer à la deuxième partie de cet entretien. On va parler de la révision de la loi sur le viol qui est en cours d'élaboration par, on l'a dit, la commission juridique du Conseil des États. Eh bien, cette révision énonce que le viol est reconnu comme crime que s'il y a eu recours à la menace, à la violence ou à des pressions psychiques, sans intégrer la notion de consentement. Sinon quoi, il est perçu juridiquement comme atteinte sexuelle, ce qui réduit la peine de 10 à 3 ans. Alors bon, il y a évidemment la peine, mais il y a l'esprit de la loi, évidemment, derrière, quoi. Vous l'avez dit, 94% des cas, dans 94% des cas, la victime n'est pas violée par un inconnu, mais par des personnes de confiance qui n'ont pas recours à la violence ou à la menace, en tout cas telle qu'on l'entend. Et ça, c'est extrêmement problématique. Ce que je vous propose, c'est que, avant que vous nous disiez, selon vous, quelle est cette réforme et en quoi est-ce qu'elle est extrêmement problématique, que l'on fasse un tout petit moment quelques précisions sémantiques. Ça vous va si on y va comme ça ?
Oui.
Alors, j'aurais voulu que vous nous précisiez, pour que tout le monde soit bien au clair, le sens de quelques mots, de quelques notions, telles que voilà, le féminicide, la culture du viol, dont vous avez effectivement parlé tout à l'heure, et l'état, le consentement, bien sûr, et l'état de sidération. Quelque chose qui est peut-être pas si, enfin peut-être encore méconnu, je ne sais pas. Enfin voilà, alors j'aimerais que vous précisiez pour ces mots-là, peut-être qu'on commence justement par la notion de consentement. Qu'est-ce que ça signifie ?
Comme tu l'as dit, après on l'explicitera vraiment quand on parlera plus de la loi et puis de à quel point c'est une notion qui doit vraiment se placer au centre de cette réforme du droit pénal sexuel. Après le consentement, précisément dans la thématique des violences sexuelles qui nous concernent, c'est vraiment un outil qui sert à exprimer que l'on va être d'accord d'avoir un rapport sexuel. Le consentement, il doit vraiment être mutuel et éclairé, donc ça doit vraiment venir des deux parties. Il doit pouvoir être exprimé librement et de façon claire, donc par un oui, même un oui actif, mais ça, c'est, on va peut-être y revenir après sur cette notion. Le consentement, c'est également quelque chose qui peut être retiré à tout moment. Donc, c'est pas parce que une personne a dit oui pour aller boire un verre que cette personne va être d'accord d'aller plus loin. Donc, c'est aussi important tout au long de la relation et même dans une relation de couple établie, même mariée, enfin, de toujours checker le consentement de la personne. Ça, c'est vraiment très important. Et comme j'ai dit, voilà, c'est vraiment une dans cette affaire qui nous concerne de cette réforme pénale du droit sexuel, c'est vraiment une notion qui doit être mise au centre et à la base de cette réforme.
Concernant la culture du viol, voudriez-vous nous dire qu'est-ce qu'on entend lorsque l'on parle de culture du viol ?
Alors, du coup, la culture du viol, c'est vraiment un ensemble de discours, de pratiques, de comportements qui vont minimiser, banaliser, normaliser, voire même encourager le viol et les violences sexuelles. Pour donner un ou deux exemples concrets, je pense qu'on peut assez bien le voir, en fait, par exemple, dans la publicité, la culture du viol, elle s'exprime vraiment de façon assez éhontée et vraiment de façon très visible et violente, en fait, pour les personnes concernées. Et puis, je pense qu'elle s'exprime aussi très bien dans ce qu'on appelle aussi la culpabilisation des victimes. Donc, en fait, c'est toutes ces discours et ces pratiques qui vont chaque fois mettre la faute sur la victime, qui vont remettre sa parole en doute, qui vont l'obliger à se justifier, à prouver qu'elle s'est défendue, qu'elle a dit non. Donc, par exemple, ça peut être tout simplement par toutes ces petites phrases. Mais t'avais bu, tu sortais le soir tard, t'avais mis une jupe, donc tu l'avais un petit peu cherché. Enfin voilà, toutes des petites phrases comme ça qu'on a beaucoup de monde ont entendu, qui sont assez simples et assez insidieuses et qui du coup entretiennent vraiment cette culpabilisation des victimes.
Si je peux rajouter quelque chose,
bien sûr.
On parlait tout à l'heure de
d'éducation, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Et c'est vrai que c'est par exemple quand on il y a ces clichés qu'on entend très facilement dans les familles, à l'école et tout. Ah, les garçons, c'est des garçons, quoi. Ou enfin, voilà, les garçons se comportent comme des garçons. Enfin, il y aurait des comportements typiquement garçons ou des comportements typiquement filles. Il y aurait des besoins d'un côté et une proportion à satisfaire ses besoins de l'autre. Enfin, voilà, des clichés comme ça sur les rôles sociaux de genre aussi qui font partie de cette culture du viol.
Concernant le mot féminicide, selon vous, voilà, c'est important, c'est fondamental de désigner par ce mot ce qui, voilà, ce qui a trait à un féminicide.
Oui, tout à fait. C'est vraiment important que ce mot soit utilisé et visibilisé. Le féminicide, c'est, enfin, dans une définition simple, enfin, ça désigne le meurtre d'une femme parce qu'elle est femme. On en a beaucoup parlé du féminicide il y a peut-être une année, 2 ans, enfin, on en parle encore. Il a été beaucoup revendiqué et par les milieux féministes et surtout, notamment sur les questions de traitement journalistique des violences conjugales. Voilà, tout simplement pour pas se retrouver avec des manchettes du matin, pour ne pas le nommer, style, voilà, il a tué sa compagne par amour. Ben non, en fait, ça s'appelle un féminicide. Ben voilà. Donc ça a été vraiment beaucoup thématisé. Et il y a par exemple, je pense à l'association Décadré à Genève qui a beaucoup travaillé là-dessus et qui met encore maintenant des formations pour les journalistes, notamment sur les questions de vocabulaire, sur les questions de langage inclusif. Donc voilà, Décadré a fait vraiment un grand et continue à faire un grand travail sur ces questions.
Absolument, l'Institut des cadrés qu'on salue, on a eu quelques interviews avec elle et c'est effectivement, on invite les personnes qui écoutent ce podcast à se renseigner et puis à pourquoi pas aller justement chercher un petit peu ces entretiens extrêmement intéressants sur justement l'utilisation du champ sémantique et ce choix tout à fait biaisé et extrêmement lourd de conséquences également. Un dernier point de vocabulaire et puis ensuite on en viendra vraiment à cette définition juridique du viol, c'est l'état de sidération. Qu'est-ce que ça signifie?
Alors l'état de sidération, des fois on l'entend aussi sous le terme d'état de dissociation, si jamais. Donc en fait c'est un état d'effroi intense qui nous saisit quand on a peur pour notre vie. Et c'est vraiment quelque chose qui arrive très souvent pour des victimes de viol et de violences sexuelles. Souvent, on utilise cette expression, enfin, la personne victime va utiliser cette expression qu'elle est sortie de son corps ou qu'elle regardait la scène de l'extérieur. Donc, c'est vraiment un état comme ça d'effroi, où on va se figer, où on va plus être capable de réagir, on va plus être capable de crier, on va peut-être même avoir du coup des moments de blackout, d'amnésie, on va plus se rappeler tout de suite après ce qui s'est passé. Je fais une petite parenthèse à ce sujet. C'est vrai qu'on vous invite à aller voir les travaux de Muriel Salmona, qui est une psychiatre spécialisée dans les psychotraumatismes liés aux violences sexuelles. Donc elle a, si vous tapez, je crois c'est mémoiretraumatique.org dans Google, vous tombez, c'est un site qui est très riche, très bien fourni, très bien expliqué. Donc voilà, ça peut être une belle porte d'entrée aussi pour vraiment se saisir de cette thématique, la visibiliser. Et puis moi, ce que j'ai aussi envie de rajouter, c'est que ce phénomène enfin, ce mécanisme de sidération, donc c'est un mécanisme de sauvegarde, et c'est vraiment un mécanisme de sauvegarde qui fait sens, parce que bien sûr que dans certains cas, une résistance physique pourrait peut-être arrêter une agression ou une violence sexuelle, mais il y a beaucoup d'études qui ont démontré que le fait d'opposer une résistance physique augmente énormément le risque de blessure, voire plus. Donc, je trouve que c'est aussi important de le dire et voilà, vraiment de visibiliser que c'est un mécanisme qui a aussi du sens et qui a vraiment, qui est en lien avec la survie de la victime.
Oui.
Je sais pas, Paolo, si tu veux, de ton expérience du coup, plus directement liée aux victimes, c'est un. Oui, parce que c'était déjà très complet, hein, mais ce que je pourrais dire de plus, pour bien comprendre ce phénomène, c'est que c'est vraiment un phénomène physiologique.
On connaît quand, face au danger, face à un danger vital ou un danger perçu comme vital, c'est le comment dire, les réflexes humains se concentrent, enfin partent du cerveau reptilien. Un peu, c'est des réflexes vraiment ancrés en nous qui sont instinctifs et on a en gros pas le contrôle sur ces réflexes. On a trois choix, mais c'est des non-choix en fait. Ça s'impose à nous. Il y a soit fight, le combat, flee, la fuite, ou freeze, la tétanie. Et c'est justement cet état de sidération, c'est la tétanisation du corps et de l'esprit, parce que sinon, en fait, on va avoir trop d'hormones et de neurotransmetteurs de stress qui peuvent vraiment endommager les circuits du cerveau, voire le cœur, etc. Du coup, en fait, c'est un état de, cet état de sidération vient noyer tous ces hormones qui se mettent en alerte lorsqu'on est en danger, et ça nous permet de survivre au moment dangereux. Mais par contre, il y a des conséquences par la suite, notamment le développement parfois de syndromes post-traumatiques qui sont après des conséquences physio-psychologiques aussi à gérer. Voilà. Ouais.
Donc, on peut parler d'un mécanisme d'autodéfense et de survie qui a
cours
à ce moment-là. Ouais. Mmh, et puis, comme vous l'avez très bien dit, c'est qu'effectivement, parfois, la réaction physique ne ferait qu'empirer la situation. En quoi cette définition juridique du viol est-elle problématique, très problématique ?
Oui, alors effectivement, merci d'arriver au cœur du sujet. Oui, effectivement, donc. Peut-être juste pour rappeler, donc il y a deux, donc il y a l'article 189 contrat sexuel et l'article 190 viol, donc du code pénal suisse. Donc l'article 190 intitulé viol, donc dit que celui qui, notamment en usant de menaces ou de violences, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de 1 à 10 ans. Du coup, il y a plusieurs aspects problématiques dans cette définition juridique du viol. Les premières, c'est vraiment en fait la limitation de cette définition, donc la limitation sur plusieurs aspects. La première, donc c'est vraiment que cette définition juridique limite le viol à une pénétration péno-vaginale d'un homme sur une femme. Donc là, il y a déjà deux limites qui sont mises en avant. C'est que déjà, il y a une exclusion de toute autre forme de pénétration, donc que ce soit des pénétrations anales, buccales, avec des objets, d'autres parties du corps. Et il y a une autre limitation, donc c'est vraiment qu'il y a une exclusion et une non-prise en considération des minorités sexuelles, des personnes trans, des personnes non-binaires, des personnes intersexes, et une exclusion également des hommes cisgenres, parce que voilà, toutes ces personnes, évidemment, peuvent être victimes de violences sexuelles, mais ne sont pas reconnues au niveau de cette définition juridique du code pénal. Ce que à Viol Secours on trouve problématique, c'est qu'il y a dans cette définition, il y a vraiment une non prise en considération en fait du concept d'autodétermination sexuelle. Donc c'est un concept qui est thématisé depuis plusieurs années, qui a été pas mal un peu mis sur le devant de la scène suite à la pétition d'Amnesty International, donc justement pour cette réforme du droit pénal sexuel. Donc en fait, l'autodétermination sexuelle dit notamment que toute personne, donc vraiment toute personne, a le droit de vivre sa sexualité sans contrainte et violence. Donc là encore, l'article 190 CP se pose en conflit avec ce concept. Ce qu'il faut aussi relever, c'est que en fait, donc il y a la commission juridique du Conseil des États qui a ouvert une consultation auprès de personnes civiles, d'associations actives sur ces questions de violences sexuelles et sur les questions d'accompagnement des victimes de ces violences. Et ils nous ont transmis du coup, enfin ils ont mis à disposition cette proposition de réforme, donc avec les articles. Donc il y a plusieurs variantes en fait qui sont proposées et on a pu écrire une prise de position et envoyer à cette consultation. Donc Viol Secours a fait cet exercice et c'est vrai que nous, on s'inquiète beaucoup du fait que dans une des variantes proposées de cette réforme du droit pénal, cette définition, donc cette limitation d'une pénétration péno-vaginale d'un homme sur une femme est toujours proposée. Donc voilà, il y a un risque que ça, c'est, dans le cas cette partie de l'article reste comme ça, et on trouve ça quand même du coup assez inquiétant. À savoir aussi que la dernière réforme du droit pénal sexuel a eu lieu en 1951, donc on est en 2021, donc s'il faut attendre la prochaine réforme, voilà, on a le temps de voir venir. Une deuxième chose qui est problématique, donc Oudam, tu l'as cité à plusieurs fois précédemment, c'est que c'est tout cette partie, donc notamment en usant de menaces ou de violences. Ça, je vais en reparler quand je vais parler plus de consentement. Et donc vraiment actuellement, pour qu'une victime soit reconnue comme victime de viol, il faut vraiment que l'agresseur ait fait preuve de violence. Et comme l'a dit déjà Pao avant, c'est de loin pas le cas, et c'est vraiment des mythes à déconstruire. Voilà, là j'avais aussi envie d'arriver plus à la partie du coup en fait du consentement, donc cette notion fondamentale qui est actuellement totalement absente du code pénal sexuel. Donc déjà ce qu'on pourrait dire sur cette notion de consentement, c'est que la première chose, c'est qu'elle est vraiment, en fait, en 2018 la Suisse a ratifié la convention d'Istanbul, qui est donc une convention pour l'élimination des violences faites aux femmes. Et dans cette convention d'Istanbul, on en a beaucoup parlé, parce que justement le consentement faisait son apparition. Et ce que, de façon globale, dit la convention d'Istanbul, c'est vraiment une incitation à ce que le manque de consentement figure au centre de toute définition juridique du viol et de violence sexuelle en général. Donc, ce qu'on peut déjà dire, c'est que cette définition juridique actuelle du viol est en conflit avec cette convention d'Istanbul ratifiée par la Suisse. Donc, je pense que ça vaut quand même la peine de le souligner. Et puis après, je rebondirai sur ce qu'a déjà introduit Pao auparavant, c'est que vraiment cet article 190 CP se fonde sur un délit stéréotypé. Et donc vraiment du stéréotype du monstre, du stéréotype de la bonne victime. Je vais le développer tout de suite. Il y a vraiment tout un mythe à déconstruire autour de ces questions des violences sexuelles. Donc l'opinion publique pense que la majorité des viols sont le fait d'une, donc c'est là le mythe du monstre, donc d'une personne qui est entre guillemets malade, qui nous attend dans une ruelle sombre ou au fond d'un parking, qui va agresser avec violence sa victime. Et puis de l'autre côté, moi, ce que personnellement j'appelle le mythe de la bonne victime, donc d'une victime qui va tout de suite aller porter plainte et qui pourra justifier de son agression par vraiment des liaisons corporelles, en fait. Et ce que nous, on peut voir en tant qu'association de terrain, et je pense que nos constats rejoignent beaucoup d'autres associations de terrain, notamment la vie, c'est que la réalité est tout autre. Comme l'a dit Pao avant, quand on regarde nos statistiques 2020, 96% des personnes que l'on a accueillies lors de nos permanences psychosociales ont été agressées par une personne qu'elles connaissaient. Et un autre chiffre que je trouve très intéressant d'amener, donc toujours selon nos statistiques, c'est que 45% des auteurs de violences possédaient une autorité sur leurs victimes, c'est-à-dire un médecin, un patron, un professeur, une personne adulte sur un mineur. Et du coup, quand on a ces chiffres, on voit vraiment, en fait, que l'agresseur n'a pas besoin d'utiliser la force physique ou la violence, car il peut jouer sur la relation de confiance qu'il avait avec sa victime et ou sur l'ascendant qu'il avait sur elle. Donc, dans le cas évidemment, d'un patron, d'un professeur, d'un médecin. Ouais. Et puis voilà, comme on en a parlé avant dans les définitions, il y a tous cette notion de sidération qui entre en compte et qui n'est pas du tout prise en compte actuellement dans cette définition du code pénal. À savoir aussi que les victimes, quand elles doivent faire face à ce phénomène de sidération, il y a aussi beaucoup de culpabilité qui vient après, culpabilité de pas avoir pu, de pas avoir su réagir. et que cette culpabilité est aussi empêche vraiment en fait le parcours de résilience des victimes. Encore une fois, on peut vraiment constater qu'il y a une inadéquation du code pénal sexuel en limitant l'infraction de viol à l'utilisation d'un moyen de contrainte. Et on a vraiment envie de le redire et d'insister là-dessus. Ça devrait vraiment être le consentement qui doit être placé au centre de cette réforme, et que seule la notion de consentement est à même de prendre en compte la réalité d'une agression sexuelle. Et autant maintenant on est dans une situation où non c'est non, mais on aimerait aussi aller plus loin et plutôt prôner le oui c'est oui. À ce sujet, je trouve assez intéressant l'exemple de la Suède, où il y a récemment une loi en fait qui est passée, et c'est là que la Suède parle de oui actif dont j'ai parlé précédemment. Et cette loi est une loi très stricte et très claire qui dit que si on n'a pas reçu un oui actif, alors c'est un viol. Donc oui actif, donc vraiment que la victime a pu avoir l'espace et la liberté d'exprimer son oui verbalement. Et ça, je trouve c'est très intéressant, et c'est vraiment un changement de paradigme complet par rapport à ce qu'on connaît actuellement.
Ouais, comment ignorer que des situations d'emprise puissent justement amener à ce que les contraintes physiques soient pas évidemment clairement présentes, en tout cas telles qu'on l'entend dans cette définition du viol. N'est-ce pas là également ajouter encore à la charge mentale de la victime, qui non seulement est la personne qui est violée, mais qui en plus derrière doit se justifier, doit prouver d'avoir été violenté?
Oui, mais totalement. Et on voit, par exemple, pour les personnes pour les personnes victimes qui choisissent de porter plainte, c'est ce qu'on appelle la double peine. Donc, elles font face déjà à potentiellement un entourage qui va peut-être minimiser, voire banaliser ce qui s'est passé, face à la police, et à leur prise en charge qui est quand même très souvent inadéquate, on va dire. Et il y a vraiment tout un plus à leur parcours de résilience. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui va s'ajouter en fait déjà au trauma tellement violent de l'agression.
Et maintenant, que va-t-il se passer? Donc, c'est a priori la consultation, elle est terminée. Je crois qu'elle devait se terminer il y a de cela un moment. Quel est l'agenda?
J'avoue que l'agenda est un petit peu obscur parce que nos institutions politiques le sont un petit peu, en tout cas à mon niveau. Après, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, comme tu l'as dit, donc la consultation est terminée. Il y avait un délai au 10 mai. De ce que je sache, il y a quand même plusieurs associations d'aide aux victimes ou associations LGBTQ+, genevoises ou suisses qui ont pris position. Donc ça, c'est quand même hyper positif et encourageant, et de ce que j'ai vu, parce qu'on s'est un peu partagé nos prises de position, on va quand même vraiment dans le même sens. Donc ça fait du bien et c'est super positif. Après, ça va prendre vraiment énormément de temps. Je pense pas qu'il y ait qu'on m'entendre parler avant peut-être une année, voire 2022. La mobilisation continue quand même. Donc, tu as parlé de cette manifestation à la Plaine de Plainpalais organisée par Engageons les Murs, du coup, où Viol Secours a aussi été invité à une prise de parole. Je sais qu'il y a également le groupe de travail consentement de la greffe féministe romande qui fait en tout cas mensuellement des happenings sur Lausanne. Parler vraiment sur cette importance de prendre en considération le consentement dans la réforme. Le GT est également assez présent sur Instagram avec le hashtag Passons mon consentement. Il y a des campagnes de photos. Et puis, on en a quand même parlé à plusieurs reprises dans la presse, en tout cas au niveau de Genève. Je sais que sur les Monts Bleus, RTS, il y a eu un ou deux articles. Donc il y a quand même des petites choses qui se passent.
Très bien. Et vous envisagez, en tout cas j'imagine que à tout le moins vous restez en alerte et vous restez informé. Comment est-ce que les personnes qui nous écoutent peuvent faire de la même, se tenir informé, rester en alerte, et puis pourquoi pas envisager d'ores et déjà des actions à venir, ou pour le moment, comme tu l'as dit, on est un petit peu obligé d'attendre?
Oui, tout à fait, tout à fait. Mais voilà, on s'endort pas. On a fait une première étape, voilà, qui a été quand même un gros travail en fait à notre niveau, déjà d'appréhender toutes ces notions. Alors on a été vraiment très soutenu et je dirais même guidé par certaines personnes du comité qui sont avocates. Donc on a eu énormément de chance à ce niveau-là. Voilà, c'est des personnes qui ont vraiment été un guide et des guides et des soutiens dans la rédaction de ces recommandations. Voilà, donc je pense maintenant on continue à regarder ce qui se passe, on reste en alerte et effectivement on lâche pas l'affaire et on envisagera éventuellement d'autres actions au moment du vote.
Eh bien, merci en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Sarah et Pao, on le rappelle, vous êtes membre donc de l'association Viol Secours. On arrive doucement au terme de cet entretien. Il y a une notion sur laquelle j'aimerais bien une fois que vous entendre, c'est la notion de non-mixité parce qu'elle est pour certaines et pour certains problématique. Et je ne sais pas si vous souhaiteriez, pour terminer cet entretien, encore prendre quelques minutes pour nous dire en quoi, selon vous, c'est central, c'est essentiel, c'est évident d'une certaine manière.
Il y a la non-mixité ou aussi on peut dire la mixité choisie qui est un peu plus proche de comment dire, de l'agency des gens qui choisissent ce mode d'organisation-là. L'agency en anglais, je sais plus comment on le traduit en français, mais c'est un peu le pouvoir d'action, quoi, la mise en mouvement et le pouvoir d'action politique. Mais du coup, pour moi, je parle pour moi, tu me compléteras ça si je
suis sûre que je suis 100% d'accord avec ce que tu vas dire.
Mais voilà, la mixité choisie, c'est un moyen de lutte politique, c'est un moyen d'organisation qui permet aux personnes concernées par une oppression de s'organiser entre elles, définir pour elles-mêmes leurs objectifs politiques, faire du care, aussi faire de l'entraide, du soin à la autour d'une communauté qui se retrouve dans des destins communs, en quelque sorte, des trajectoires, des résonances de vécu, et qui leur permettent en fait de décider pour elles-mêmes ce qu'elles veulent pour leur émancipation. Par exemple, en ce qui concerne les violences sexuelles, le fait d'avoir des groupes de femmes ou de personnes queer qui s'organisent entre elles autour de ces questions-là permet une libération de la parole parce que, rappelons-le quand même si on essaie de nous dire que la violence n'a pas de sexe ou comme ça, enfin, les discours masculinistes font leur grand retour, mais on sait que plus de 85%, voire 90% des violences sexuelles sont commises par des hommes cisgenres. Donc, c'est se retrouver sans ces personnes-là autour de ces discussions-là permet de libérer la parole, permet d'être autonome, permet de retrouver aussi une forme d'autonomie. Ce que je veux dire, c'est que c'est une pratique, c'est que c'est pas seulement quelque chose de théorique. Comme souvent, enfin voilà, certains concepts sont jolis sur papier glacé, mais c'est vraiment une pratique qui se vit dans les corps. Et ce que j'ai envie de dire aux personnes qui seraient concernées, par exemple, par une mixité choisie, mais qui seraient contre, a priori, ce serait aller faire l'expérience et regarder ce que ça vous fait à l'intérieur. Et concernant les personnes qui seraient non concernées par ces mixités choisies, je leur dirais, ben, mêlez-vous de ce qui vous regarde, quoi. Laissez-nous nous organiser.
Toute dernière question, ce serait, si vous aviez une petite bibliographie, quelques conseils de lecture ou de médias comme ça qui viendraient compléter le travail que Viol Secours fait pour les personnes qui souhaitent aller un petit peu plus en avant.
Oui, alors les travaux de Muriel Salmona, comme on l'a dit, on est en train de travailler à proposer en fait un arpentage du livre Les Orageuses. Marcia Brunier. Voilà, donc c'est un livre qui est plein d'énergie, qui est plutôt sur la thématique de la reconstruction suite à des violences sexuelles par l'action musclée et féministe. Donc voilà, je pense que l'équipe, on se sent assez proche. Je pense aussi évidemment à Virginie Despentes, voilà, à ce genre d'écrit.
Très bien, très bien. Et l'arpentage, on le rappelle, c'est une lecture commune de fragments divisés par plusieurs personnes qui vont ensuite faire le récit de leur lecture.
Tout à fait.
Merci encore beaucoup, Sarah. Merci beaucoup, Pao. Si,
merci à toi.
Ben avec plaisir. Si vous êtes d'accord, on s'arrête là pour aujourd'hui en rappelant que Viol Secours est bien cette viol-secours.ch et que vous êtes également présente sur les réseaux sociaux. Merci et courage pour la suite des opérations.
Merci infiniment.
Merci beaucoup.
Coupé court et coupé net. Libre Radio pour une saine séparation de l'homme et de son vie. Ah bon, je restais avec cet appendice congestionné, terriblement ridicule. Libre Radio, les couilles dans le bocal au fond du puits, le puits au fond du jardin.